Les hommes aux semelles devant. Une émission d'Odémilie Judaïque. Aujourd'hui, les déplacés du Darfour. Guereïda, camp de déplacés au sud-ouest du Soudan. Nous sommes ici dans le plus grand camp humanitaire du monde. 128 000 personnes, l'équivalent d'une ville comme Amiens, s'entassent dans cet immense terrain vague de 10 km². Depuis 2006, des milliers de familles fuyant l'enfer du Darfour ont afflué sur ce morceau de steppe soudanaise. Aujourd'hui, on compte 3 millions de déplacés dans le pays, soit la moitié de la population du Darfour, mais aussi 250 000 réfugiés au-delà des frontières soudanaises et 300 000 morts. D'après Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, ce sont là les victimes de la première guerre climatique de l'histoire, une guerre pour la terre alors que le désert avance. Un génocide perpétré par des nomades contre des sédentaires, avec la bénédiction du président Omar el-Béchir, le Bachar al-Assad soudanais. Mais pour le géographe Marc Lavergne, l'origine de la crise dans la région du Darfour est aussi à chercher dans le sous-développement chronique et le pillage des ressources, résultat d'une politique colonialiste initiée par les Britanniques et poursuivie depuis par les gouvernements successifs. Alors tout de suite, revenons sur l'histoire du Darfour, un petit paradis qui s'est peu à peu mué en véritable enfer.
Mara, Mara, ma terre, mon ciel. Mara, Mara, ma mère. Mara, Mara, la mer du monde. Mara, Mara, toujours nous reviendrons.
Je m'appelle Sonia et je dois bien avoir 30 ans. De ma hutte au toit de chaume, on aperçoit le Mara. C'est un volcan endormi. Selon les dires des anciens, le Mara a jadis craché des rivières de feu. Mais c'était il y a bien longtemps, je n'étais même pas née. Aujourd'hui, cette montagne est au cœur de ma vie, de celle de ma famille et de celle du Darfour. Je la regarde tous les matins. Lorsque le coq vient de chanter et que le soleil se lève lentement telle une boule de feu. Chaque jour, je parle au Djebel Mara. Je lui offre ma journée, je lui demande de l'aide et je le remercie d'être là, toujours, immuable.
Bon, c'est un très beau pays, le Darfour, très fertile, envoûtant, je dirais. Pas du tout l'image qu'on peut en avoir en regardant la télévision ou pour le journal de 20 heures, on va dans un camp de réfugiés qui, par définition, est installé sur des terres infertiles dans la banlieue d'une grande ville et on voit des pauvres gens qui sont sur le pas de leur tente UNICEF à attendre que ça se passe. Mais le Darfour est resté quand même très isolé. Au cœur de l'Afrique, hein. Il est aussi loin du golfe du Bénin que de la mer Rouge et de la Méditerranée, environné au nord par le désert, au sud par la steppe. Et la grande spécificité du Darfour, c'est que c'est une montagne. C'est une sorte de chaîne des puits, hein, des volcans d'Auvergne, au milieu du désert. Le sommet, le Djebel Mara, est à 3000 mètres d'altitude, ce qui arrête les pluies de mousson qui viennent l'été du golfe du Bénin et fait que de nombreuses rivières, des cours d'eau temporaires, hein, après la saison des pluies, rayonnent dans toutes les directions avant de se perdre dans les sables. Donc une région qui est à la fois volcanique, donc fertile, et en même temps bien arrosée. Donc ça a été un endroit, le Darfour, qui a attiré des populations sédentaires, de paysans, cultivateurs, depuis fort longtemps. Et ces populations se sont organisées en royaumes indépendants, en sultanat, depuis le Moyen-Âge, notre Moyen-Âge à nous, et des populations périphériques aussi, qui nomadisaient dans les déserts, dans les steppes, tout autour, et ça jusqu'à la fin ou à la deuxième moitié du XIXe siècle.
Il est 5 heures du matin. Le monde est engourdi. Je laisse mes tongs me diriger vers la mosquée dans un automatisme routinier. La première prière déchire le silence de l'aube. J'aime cette musique pieuse et rassurante. La voix rejoint la montagne comme si ce Allah Akbar montait vers le Mara, démontrant ainsi qu'Allah domine la montagne. Akbar, le plus grand.
Le Darfour, ça veut dire le pays des fours. Hein. Dar, c'est le pays. Bon, alors, il y a au centre, non pas des Arabes, mais des fours. Hein, les fours qui, eux-mêmes, agrègent, agglomèrent d'autres peuples qui ont envie de devenir fours. Ou bien des gens qui ont, à cause d'une sécheresse, perdu leur terre, ou des nomades qui n'ont plus de troupeaux, qui veulent devenir sédentaires. Donc on leur donne des terres. Voilà. Et c'est comme ça que se forgent des langues, des identités, autour d'une loyauté à un roi et à son mode de fonctionnement. Et les Arabes, eh ben, c'était les nomades qui étaient en marge dans le désert. Donc des pauvres airs qui étaient soit des éleveurs de chameaux, ou bien des gens qui n'avaient rien et qui essayaient de vivre d'artisanat, de poterie, de choses comme ça, et de grappiller sur les caravanes, soit des éleveurs de vaches plus au sud, qui, eux, avaient des formations beaucoup plus puissantes, avec des armes, mais tout ça fonctionnait dans un jeu de symbiose avec l'État. Hein. C'est-à-dire que les plus pauvres des Arabes devenaient des mercenaires à la solde du sultan, en particulier pour faire les razzias d'esclaves, puisque chaque année, il y avait des raids esclavagistes qui étaient menés par le sultan du Darfour, qui après vendait, il faisait ses propres caravanes. Alors, il y avait ces Arabes-là qui étaient des mercenaires, donc qui étaient soumis, qui étaient dans une position inférieure socialement au grand peuple non-arabe de la région. Donc, il y avait cette symbiose qui fonctionnait très bien, au point que le Darfour est resté indépendant jusqu'en 1916. Ce qui intéressait les Britanniques, c'était le coton. Le coton qu'ils ont développé de façon irriguée, là où le Nil bleu et le Nil blanc se rejoignent, dans cette grande ferme de la Guésirée. Alors, le Darfour n'ayant pas ses ressources en coton, ses ressources exportables, n'intéressait pas le pouvoir de Khartoum, qui était un pouvoir monopolisé par les tribus arabisées, elles, et islamisées, bien sûr, de la vallée du Nil, au nord de Khartoum, c'est-à-dire des tribus qui sont aujourd'hui au pouvoir. Hein, Monsieur Omar el-Béchir, c'est un Djarali. Les gens qui sont autour de lui sont des Chaïguia. Il y a aussi des Nubiens de la région de Dongola. Donc tout ça contrôle l'immense territoire du Soudan, alors que ce sont les paysans oasiens de la vallée du Nil, un peu comme les paysans d'Égypte. Mais ils sont fiers d'avoir été arabisés et islamisés, pour la plupart d'entre eux. Donc le Darfour n'intéressait pas. Et le Darfour n'intéressait que comme ressource saisonnière de main-d'œuvre pour aller travailler dans les champs de coton de la vallée du Nil. C'était une main-d'œuvre qui se déplaçait, transhumait de façon saisonnière avec femmes, enfants, les lits, les matelas, à d'autres camions, jusque dans les fermes pour gagner un peu d'argent durant la saison où il n'y avait pas de récolte, il n'y avait pas de travaux des champs dans leur montagne. Et puis, après, il y a eu un chemin de fer qui a été fait quand même en 1960, qui arrivait jusqu'à une grande ville du Darfour. Mais il fallait, avec ce train, un mois en saison des pluies pour aller de Khartoum à Niala, le terminus. C'est-à-dire qu'il y a 2000 kilomètres, un peu moins, 1500 kilomètres, mais on n'était jamais sûr d'arriver parce que les pluies pouvaient couper la voie ferrée, enlever les rails, etc. Et en camion, c'était la même chose, voire pire. On partait, on ne savait jamais quand on allait arriver. Et je parle de ça jusqu'à aujourd'hui, finalement. Aucun gouvernement successif ne s'est intéressé au Darfour. Alors, il y avait monopole du pouvoir politique, monopole de l'instruction parce que les gens du Darfour étaient méprisés comme étant des paysans lointains. Et le système n'a pas changé avec le départ des Britanniques. Mais les gens qui sont venus au pouvoir après, qui étaient des grands hommes d'affaires, étaient pour les uns des marchands de bétail et pour d'autres des grands propriétaires fonciers. C'est-à-dire qu'ils se sont alloués, dans la mesure où il n'y avait pas de cadastre, des terres immenses qu'ils ont mis en exploitation pour faire des céréales, des protéagineux, du sésame, du sorgho, de l'arachide, sur des superficies de 50 000, 100 000 hectares d'un seul tenant parfois, hein. Avec des batteries de tracteurs qui viennent, qui labourent, on sème derrière et on revient simplement après les pluies. Quand ça a poussé, on engrange tout ça et on le vend à l'étranger. En érodant les sols, évidemment, puisqu'il n'y a pas de jachère, il n'y a pas d'engrais, on a enlevé tous les arbres. Donc le Soudan, c'est un peu ce paysage-là. Et les gens du Darfour, finalement, n'ont pas accès aux clients, n'ont pas accès à la valorisation, donc ne tiraient pas grand bénéfice de toute cette activité qu'on maintenait dans un cadre très traditionnel. Il n'y a pas de soins vétérinaires, pas de ferme, pas de etc.
L'année 1984 est à marquer d'une pierre noire pour toute l'Afrique, qui se situe en dessus du Sahara. Cette région du monde connaît la plus grave sécheresse de son histoire, menaçant la vie de 150 millions de personnes qui n'ont plus rien à manger.
Pourtant, au sud du pays, la récolte en coton destinée à l'exportation vers les pays riches est bonne. On aurait peut-être pu planter de quoi nourrir les habitants. Le développement, c'est aussi le pouvoir d'achat garanti sur plusieurs années et les moyens d'entreprendre soi-même son développement.
Il y a eu une première famine en 73-74 dans toute l'Afrique sahélienne, une deuxième en 84-85, et là, les greniers étaient vides, parce que les gens sont habitués à la famine. Hein. Ils savent que tous les 5 ans, il peut y avoir une période de sèche, d'un an, deux ans, trois ans, donc ils ont des greniers. Mais là, la croissance de la population, la monétarisation de l'économie fait qu'ils avaient épuisé leurs ressources et ils ont été obligés de partir, de quitter leur village, de laisser parfois les femmes et les enfants pour aller chercher du travail dans un premier temps, sur des fermes, mais ils étaient tellement nombreux qu'on les payait en leur donnant un croûton de pain par jour. Et puis après, ce sont des populations entières qui ont quitté le Darfour pour rejoindre les camps aux portes de la capitale. Et puis aussi sur place, il y a une centaine d'organisations internationales qui se sont ruées sur le Darfour, venant de toute l'Europe, de tout l'Occident, pour sauver, déjà en 1985, les gens du Darfour, et sans s'attaquer aux racines du problème. Mais je pense pas que le dessèchement du climat soit en cause. Ce qui est en cause, c'est le manque de développement, parce que je vous ai dit qu'il y avait des rivières au Darfour, il y a même des lacs, il y a des cascades en saison des pluies, c'est quelque chose de tout à fait impressionnant, et on aurait pu faire des barrages, on aurait pu faire des réservoirs, on aurait pu développer cette agriculture, puisque c'est une région extrêmement riche, fertile, on aurait pu faire des efforts pour développer des productions exportables qui auraient permis d'importer de la nourriture et de résoudre tous ces problèmes. Le problème du Darfour, c'est le problème de toute l'Afrique finalement. C'est qu'il n'y a que l'agriculture, on n'a pas développé la transformation des produits agricoles, et la jeunesse en particulier aujourd'hui sait qu'il y a d'autres possibilités que de cultiver la terre pour ne rien gagner. Ils ont d'autres envies, donc c'est soit la guerre, mais c'est simplement parce que, là encore, il n'y a pas de travail, pas d'avenir, et des frustrations qui n'existaient pas auparavant parce qu'on ne savait pas qu'ailleurs la vie pouvait être différente.
C'est lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon qu'ils apparaissent en plein désert. Les rebelles du SLA, l'armée de libération du Soudan, les ennemis jurés du pouvoir de Khartoum, à majorité arabe. Ils vivent par petits groupes d'une quinzaine d'hommes, en totale autonomie. Ils connaissent chaque fourré, chaque croisement de piste, et c'est là toute leur force.
Le pouvoir mène depuis toujours une politique de discrimination vis-à-vis des populations noires du Soudan. Nous manquons de tout, d'eau, d'électricité, de développement. Depuis l'indépendance, il n'a rien fait pour alléger la souffrance des gens d'ici.
La rébellion, elle est venue de certains groupes en disant « Nous, on ne veut pas être indépendant, on ne veut pas être autonome, on veut être soudanais, on est soudanais comme les autres, on a droit à l'éducation, on a droit aux services publics, on a droit aux infrastructures, on veut des hôpitaux, des écoles, des routes, etc. Hein » évidemment, Omar al-Béchir a dit « Si on fait ça, le Soudan disparaît, parce que les gens du Sud veulent une autonomie, les gens du Darfour en veulent une autre. » Donc les gens du Darfour se sont dit « Bon, on ne veut pas de nous à la table des négociations, on prend les armes. » Le gouvernement a pris peur parce qu'il s'est dit que le Soudan allait imploser et qu'il allait se retrouver avec juste Khartoum, hein, un petit territoire sans aucune richesse. Donc il a lancé les milices tribales qui, elles, avaient une sorte d'avidité de prendre les greniers, de prendre les bonnes terres des autres qui se trouvaient être des paysans qui n'étaient pas arabes. Et puis, il a lancé ses Antonov, ses avions bombardiers, qui étaient un peu comme en Syrie aujourd'hui. On remplit des barils avec de la poudre, des clous, etc. Et on terrorise les populations parce qu'on bombarde systématiquement les écoles, les marchés, les puits, tous les endroits où la population se réunit. Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui au Darfour, tous les jours, dans l'indifférence générale.
Les Janjavides. Dieu miséricordieux, ce sont les Janjavides. Les cavaliers de l'enfer arrivent au galop dans un nuage de poussière. Surtout ne pas me retourner, courir, toujours courir. J'appelle Allah. Un homme à cheval fonce sur moi, menaçant de me piétiner. Il porte des rébanes et brandit sa kalachnikov. Comment peux-tu appeler Allah, espèce d'esclave ? Tu salis le nom d'Allah. Le Janjavid me fouette, me frappe, me lacère les parties les plus fragiles, les plus intimes. Ma peau déchirée brûle. Je pense que tout est fini. Je sais que je vais mourir. Je m'effondre sur le sable. Au fur et à mesure que j'approche du village, l'odeur se fait plus écœurante. Je bute d'abord sur les cadavres calcinés de chiens brûlés vifs, mes vaches décapitées. Du sang coule encore sur la terre brûlée, tout est incendié. Pas une seule hutte qui n'ait résisté aux flammes. Je marche dans le village et je découvre ma voisine Fatma le ventre béant, déchiré au couteau. Ils se sont attaqués au ventre, comme s'ils avaient voulu en finir avec notre race, l'exterminer. Ils nous ont traités de zourgas, de noirs et d'esclaves. Ils ont hurlé que nous n'étions pas dignes d'être musulmans. Ces insultes ne sont pas nouvelles au Darfour. Les Arabes ont toujours eu une attitude arrogante du haut de leurs chameaux et de leurs chevaux. Ils se plaisent à répéter que nous sommes des nègres convertis tardivement à l'islam pour échapper à l'esclavage. Mais jamais ils n'avaient été aussi fous pour nous torturer, nous des musulmans comme eux, avec cette cruauté nouvelle. Que s'était-il passé ?
Alors cette politique de contre-insurrection et de par la terreur, que ça soit par l'aviation, que ça soit par les Janjaouides, ces cavaliers qui arrivent, qui incendient les villages la nuit, elle ne vise pas à exterminer la population. On peut pas parler comme ça a été fait imprudemment de génocide. Il y avait 7 millions ou 8 millions d'habitants au Darfour à l'époque. Il ne s'agit pas de les exterminer sur une base raciale. On les méprise comme dans la société soudanaise. Il y a effectivement une gradation de respectabilité, je dirais une sorte d'apartheid de non-dit et non-écrit, non-légal dans toute la société. Il s'agissait avant tout de semer la terreur pour les regrouper dans des camps pour prendre leurs terres fertiles, pour mettre les Arabes s'ils veulent devenir cultivateurs. Et puis, rassembler les populations, ces troupeaux, je dirais, dans des grands camps de 100 000 personnes, comme à Kalma ou à Inchok, à côté d'El Fasher, la capitale. Bon, on a une dizaine, une vingtaine de camps qui ont entre 50 000 et 100 000 habitants aujourd'hui. Ça permet de mieux les contrôler.
Mara, Mara, ma terre, mon ciel. Mara, Mara, toujours nous reviendrons.
Les Janjaouides, on retrouve là cette configuration de peuple ou de jeunes, de tribus, qui se sentent marginalisés déjà géographiquement, puisqu'eux sont dans le désert. Donc ils n'ont accès à rien en tant que bien matériel. D'un autre côté, ils sont valorisés d'une manière un petit peu criminelle par le gouvernement central en disant « Écoutez, vous, vous êtes des Arabes, vous êtes plus clairs que les autres, vous êtes venus d'Arabie, vous êtes venus de je sais pas où. » C'est pas vrai, ce sont des gens qui sont là depuis des siècles et des siècles et qui étaient la dernière roue du carrosse dans la formation sociale soudanaise. En tant que nomades, et comme tous les nomades du monde, la religion, c'est pas leur fort. Parce que l'islam, il faut des mosquées, il faut faire la prière le vendredi, tous se réunir. Quand on est nomade dans le désert, même en Arabie Saoudite, c'est pas facile. Et jeûner jeûner, on jeûne toute l'année. On jeûne pas que pendant le Ramadan. Et les gens de Jaouid, qui sont des cavaliers ou des chameliers, ils se déplacent, ils connaissent le terrain, donc ça coûte beaucoup moins cher qu'une armée avec des camions où il faut de l'essence, il faut des mécaniciens, il faut des routes. Eh bien, ils peuvent attaquer la nuit, ils peuvent attaquer à l'aube et ils mettent le feu au village, aux chaumières. Ils chassent la population, ils tuent, ils violent, ils pillent. Donc ils se payent sur la bête et ils sont rétribués aussi par Khartoum. Donc il y a vraiment des baraques. Donc là on voit les gens qui font la queue, je dirais, pour toucher la paye dans la capitale, dans les grandes villes, le soir. Hein, ils sont dans la rue comme ça et personne ne dit rien. Hein, c'est comme ça.
Mes quatre enfants et moi, nous partons pour Khartoum, à pied. C'est à 10 jours de marche. Nous marcherons la nuit et dormirons le jour, c'est plus sûr. Nous arrivons aux abords du camp. Des tentes de plastique s'étalent sur plusieurs kilomètres. Ici, tout autour, nous sommes tous des déplacés. C'est comme cela qu'on nous appelle désormais.
Beaucoup de gens sont partis sur les périphéries, près des grandes villes. Alors les grandes villes, c'est intéressant parce qu'il y a l'armée gouvernementale, il y a les services de sécurité, il y a aussi les ONG. Et les ONG, à leur corps défendant, rendent service au gouvernement, puisqu'elles viennent soigner, elles viennent nourrir ces gens-là, et sans que ça coûte rien au gouvernement, qui au contraire peut prendre sa part sur ces ressources-là, et parfois la moitié. Parce que quand on loue des avions ou des camions pour apporter la nourriture, on le loue à des membres du gouvernement ou à des suppôts du gouvernement. Donc c'est tout un business humanitaire qui se développe au détriment de ces 2,5 millions, 3 millions de déplacés aujourd'hui qui attendent depuis 10 ans de rentrer chez eux. Ces gens, personne ne leur a apporté aucune solution, ce qui fait que, comme dans beaucoup d'endroits, comme on peut le voir en Centrafrique ou ailleurs, les victimes qui sont secourues par les ONG détestent les ONG, parce qu'elles ne résolvent pas le problème. Au contraire, elles le prolongent. Quand on fait des écoles comme l'UNICEF, eh bien c'est pour enseigner l'arabe aux enfants, alors que justement, on participe à l'acculturation du gouvernement. On oblige l'enseignement d'aujourd'hui au Soudan, c'est le Coran que les enfants apprennent par cœur. Leur présence transforme en même temps la culture des gens, parce qu'on leur apporte de l'eau courante qu'ils n'ont jamais eue. On leur apporte de l'électricité. On leur apporte toutes ces drogues, ces bienfaits qui sont en même temps des drogues, qui font que jamais ces gens ne pourront retourner dans leur village, dans la situation d'avant, où les femmes allaient chercher l'eau au puits ou à la rivière, à 5 km, hein, avec un jerrycan de 20 litres sur la tête. Et maintenant, il suffit d'ouvrir un robinet et les enfants prennent leur douche. Les camps ne sont pas fermés par des clôtures grillagées, mais quand on sort, on a les gens djaouides qui maraudent hein, autour des camps pour essayer d'attraper des femmes qui vont chercher du bois pour faire le feu et les violer, ou bien tuer les hommes en âge de combattre qui sortiraient des camps. Donc une situation effectivement très douloureuse, terrible encore aujourd'hui pour les gens du Darfour. Mais maintenant, je crois qu'il y a des perspectives d'abord de mines d'or. Tout le nord Darfour, on a découvert des gisements d'or phénoménaux. Mais le gouvernement aimerait bien mettre la main sur ces ressources et sur d'autres ressources qu'on trouve, peut-être le pétrole, etc. Donc on relance la guerre aujourd'hui pour vraiment éradiquer les derniers combattants et puis aussi maîtriser la population. Donc vous voyez, plus une tentative d'éradication par ethnocide plus que par génocide. Hein. Mais ça n'empêche pas le président Omar al-Béchir de voyager librement, d'aller à des conférences en Afrique du Sud ou ailleurs. Et le Soudan est soumis à certains embargos, mais il vit très bien et il a aucun problème. Il a des problèmes économiques, il a des problèmes de mécontentement de la population. Mais tant que l'armée et les services de sécurité tiennent, eh bien, il reste le maître du jeu. Et il a le soutien, encore une fois, de la France. La France a toujours été en pointe hein, depuis le coup d'État de 1989 dans le soutien à ce régime criminel. Mais elle n'est plus seule, finalement. Même les Américains s'entendent assez bien. On considère qu'il est un facteur de stabilisation en Afrique. Hein. C'est la ligne officielle, aujourd'hui, des gouvernements occidentaux. Ce gouvernement soudanais tient bien sa population. Donc, étant donné qu'il y a des guérillas, il y a des déstabilisations partout ailleurs, il faut le soutenir. Donc, c'est la paix des cimetières, mais c'est la paix.
Je ne peux plus respirer l'air du Soudan, la terre de toutes les violences. Mes poumons rejettent jusqu'à l'oxygène de ce pays.
En deux saisons des pluies, vous ne voyez pratiquement plus de traces des maisons. Vous pouvez marcher comme ça dans la forêt, dans la broussaille, et vous trouvez des poteries, vous trouvez des pans de murs. Les gens de Jaouid ne s'y sont pas installés parce que le problème n'est pas là finalement. Ça, c'était l'idée de Khartoum sans doute. Mais les jeunes gens de Jaouid ne rêvent pas de manier la pelle et la pioche. Hein. Et devenir un paysan, c'est de toute façon pour des fils de paysans ou pour des fils de nomades une sorte de déclassement. Hein. C'est une déchéance par rapport à ce qu'on rêve d'être, c'est-à-dire voyager, partir, voir un autre monde, devenir un seigneur soi-même avec une armée qui suit, une armée d'enfants au besoin. Hein. Mais c'est un peu ça l'idéal aujourd'hui. C'est ce qui nourrit, ça n'est pas la terre, c'est la guerre. Donc ces régions sont aujourd'hui déshéritées, abandonnées. Ces terres extrêmement fertiles, avec ces beaux manguiers. Il y a eu des livres qui ont été écrits, de souvenirs, qui montraient cette coexistence pacifique et très harmonieuse entre tous les groupes, cette complémentarité, je dirais, entre tous les groupes ethniques, tous les groupes sociaux, cette culture vraiment du Darfour qui vivait à l'écart de toute présence agressive venue de l'extérieur. Et ça, malheureusement, c'est un monde qui a disparu. Mais les gens du Darfour continuent de se battre. Ils ont des dissensions entre eux, mais ils n'ont pas d'autre choix que de se battre, finalement, hein, ou d'accepter de disparaître, au moins en tant que gens du Darfour, avec cette culture et cette civilisation.
Merci à Marc Lavergne, géographe et chercheur au CNRS dans l'équipe Monde Arabe et Méditerranée à l'Université de Tours. Entre autres passionnants écrits sur le Soudan, il a notamment publié un article intitulé « Le réchauffement climatique à l'origine de la crise de Darfour » paru en 2010 dans la revue Tiers Monde. Merci également à Samantha Lavital, qui a fait vibrer pour nous l'âme perdue du Darfour, dans des lectures librement adaptées du récit de Fabienne Le Houerou, intitulé « Les cendres du Darfour », publié en 2010 aux éditions Encre d'Orient. Les Hommes aux semelles de vent, une émission d'Aude Émilie Judaïque, préparée par Julie Briand et réalisée par Charlotte Roux et Anne-Laure Chanel. Prise de son et mixage, Bernard Laniel et Pierre Mine. La semaine prochaine, nous questionnerons la politique migratoire israélienne à l'égard des non-juifs et des réfugiés subsahariens en particulier. Alors rendez-vous samedi prochain et d'ici là, bonne semaine sur France Culture.
Give me your sugar.